Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, c'est 400 000 personnes qui risquent de perdre leur passe sanitaire dès demain, faute de rappel. Vous entendrez aussi les premiers mots d'Alain Bernard après la mise en examen de Yannick Agnel. Et puis la tournée du Père Noël avant l'heure. On vous emmène dans les coulisses des transporteurs, ceux qui livrent les colis.
Et à 12h40, deux sujets. D'abord cette grève à la SNCF. Les syndicats ont choisi le week-end prochain, premier week-end de départ en vacances. Et puis à 12h50, les dernières recommandations du conseil scientifique pour le réveillon de Noël.
Notre question du jour sur RTL.fr. Perturbation justement ce premier week-end de vacances. Comprenez-vous les cheminots qu'ils fassent grève pour leur salaire? Vous dites oui à 13% seulement. Notre météo, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Ça reste bien gris au nord.
Oui, c'est vrai que les nuages sont encore nombreux hein, avec quelques brouillards persistants sur toute la moitié nord, sauf sur les reliefs où le temps est absolument magnifique et entre la Haute-Marne et la Côte d'Or. Et sur toute la moitié sud, c'est bien ensoleillé, sauf vers la vallée de la Garonne, encore quelques grisailles. Les températures de 4 à 9 degrés au nord, jusqu'à 12 sur les côtes et de 11 à 16 degrés au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure 13h.
RTL Midi.
Et pour commencer donc, attention, votre passe sanitaire risque bien de s'autodétruire dès demain. Ça concerne tous les plus de 65 ans qui ont reçu leur deuxième dose il y a au moins 7 mois, mais aussi toutes les personnes vaccinées au Janssen. C'est le cas de Jean-Luc.
Je suis pris un passe sanitaire 3 mois après un vaccin. C'est scandaleux, quoi. Le Janssen, d'un coup, faut plus le prendre parce que soi-disant, il vous protège pas. Mais je m'excuse, mais quand il est arrivé en France, tout le monde disait qu'il protégeait. Hein. Donc, je suis en colère. Ouais. Pourquoi ce vaccin-là, on m'a dit que c'était un bon vaccin et que quelques temps après, on vous rappelle pour vous dire qu'il n'est pas valable et qu'il faut se faire confirmer par un Pfizer ou un Moderna. Ce qui va m'embêter le plus, c'est peut-être de plus aller manger au restaurant avec mes amis. On avait l'habitude d'aller manger une fois par semaine entre amis ou avec des connaissances. Je vais tout simplement le supprimer et je vais me débrouiller autrement.
Un témoignage recueilli pour RTL par Sébastien Rouxel. 400 000 personnes hein, qui devraient donc voir leur passe sanitaire s'autodétruire. Alors, ça ne va pas s'autodétruire comme ça, mais en tout cas, ne plus fonctionner à partir de demain. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
On l'a dit, ça concerne les plus de 65 ans qui ont fait leur deuxième dose il y a plus de 7 mois. Ceux qui ont été vaccinés au Janssen, comme Jean-Luc qu'on vient d'entendre. Et alors, pour les autres, quel est le calendrier?
Alors, pour tous les plus de 18 ans, la date à retenir, c'est celle du 15 janvier. Dans un mois, tous les adultes qui ont reçu une deuxième injection, il y a plus de 7 mois, perdront leur passe sanitaire, comme les plus de 65 ans demain et les vaccinés au Janssen, sauf évidemment s'ils ont attrapé le Covid entre-temps, auquel cas il faut compter 7 mois après l'infection pour faire son rappel. Au-delà donc du 15 janvier, pour ces personnes, leur QR code sera désactivé automatiquement. Si vous utilisez l'application Tous Anti-Covid, le QR code apparaîtra désormais dans la catégorie certificat expiré, comme par exemple les tests PCR après 24 heures. À noter que si vous avez un doute sur quand vous devez vous faire vacciner exactement en rappel et sur la date limite de votre passe sanitaire, vous pouvez vous rendre sur un portail mis à disposition par l'assurance maladie qui s'appelle Mon Rappel Vaccin Covid.
Mon Rappel Vaccin Covid. Voilà donc l'outil pour tout comprendre. Merci beaucoup Agathe Landais.
La politique à présent est la présidentielle. Après Valérie Pécresse, c'est au tour de Marine Le Pen de monter au credo.
Toutes deux dénoncent l'émission avec Emmanuel Macron qui sera diffusée demain sur TF1. La candidate du Rassemblement National y voit là une inégalité de traitement.
J'ai le sentiment que Emmanuel Macron, plus que n'importe quel autre président, profite sans aucun complexe des pouvoirs qui sont ceux du président de la République. Donc que le président de la République soit candidat, évidemment, il en a la liberté, mais je crois que l'honnêteté minimum serait de le dire, que le comportement loyal de l'ensemble des médias serait de ne pas lui offrir des conditions d'expression de sa candidature qui soient aussi manifestement différentes que celles qui sont accordées aux autres candidats qui concourent à cette élection.
Marine Le Pen au micro RTL de Marie Mollet. À gauche, l'hypothèse Taubira pourrait bientôt se préciser. On sera en tout cas fixé dans les tout prochains jours. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Vous nous le révéliez ce matin sur RTL, l'ex-garde des Sceaux s'est entretenue avec plusieurs candidats.
Mais oui, effectivement, il y a de ça une quinzaine de jours, elle a appelé Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo pour leur parler de l'union à gauche. on n'en sait pas plus. Christiane Taubira a aussi dîné il y a une huitaine de jours avec les organisateurs de la primaire populaire qui propose un vote pour aboutir à un seul candidat de gauche. De là à dire qu'elle serait candidate à une telle primaire, on n'y est pas. Un de ses interlocuteurs réguliers le confirme. Elle prend le temps d'écouter les uns et les autres et elle s'interroge. Suffisamment en tout cas pour avoir prolongé son séjour à Paris. Mais le même tempère, elle n'a rien suscité. Elle voit bien que sa présence ne laisse pas indifférent, mais elle connaît les difficultés. Il y a le calendrier et puis l'opposition à une primaire des candidats de gauche, à l'exception d'Anne Hidalgo. Alors soit Christiane Taubira se décide à être candidate et elle le dira avant Noël. Dans le cas contraire, elle gardera probablement le silence.
Marie-Bénédicte Heller du service politique de RTL. Gérald Darmanin lui annonce avoir enclenché la procédure de fermeture administrative de la grande mosquée de Beauvais dans l'Oise. Le ministre de l'Intérieur évoque la radicalité des prêches qui y sont données.
Les suites de l'affaire Agnel et c'est l'un des tout premiers nageurs à prendre la parole.
Alain Bernard se dit ce midi abasourdi sous le choc après la mise en examen de son ancien coéquipier.
On est surpris de cette situation. Une enquête est en cours, donc à partir de là, on ne peut ni se positionner ni d'un côté ni de l'autre. On est surpris. Et surpris et abasourdi, voilà.
C'est un séisme pour la natation.
La natation et le sport est le reflet de la société, j'ai envie de dire. Et puis, il y aura toujours des voleurs et des tricheurs dans la société et dans le sport. Et des personnes avec un comportement déplacé dans tous les univers, que ce soit politique, sportif, professionnel, dans l'entreprise. Donc, On est tous, je pense, surpris par cette nouvelle, mais on ne peut pas se prononcer, et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre.
Alain Bernard au micro RTL d'Isabelle Langer. Aux États-Unis, Joe Biden attendu demain dans le Kentucky. Le président américain se rendra notamment à Mayfield, cette commune qui a été complètement dévastée par les tornades de ce week-end. Par endroits, il ne reste plus rien, et pourtant, la reconstruction a déjà commencé, Lionel Gendron.
Oui, assis sur les marches de ces escaliers qui ne mènent plus à rien, Harry soupire. Quand vous regardez la ville, par où commencer, se demande-t-il. La tâche est en effet gigantesque, mais l'opération reconstruction est lancée. L'État dégage les routes et dépêche des centaines d'agents qui inspectent toutes les maisons, vides ou habitées. Les sociétés de téléphonie quadrillent les rues et des artisans comme Conrad rafistolent les toits qui peuvent l'être.
On fait ça gratuitement, on fait en sorte que les gens aient un toit et soient un peu protégés de la pluie et du froid.
Un bout de ruban adhésif entre les dents, Dawn remplace les vitres de sa voiture par des sacs poubelles. Le capot ne ferme plus, elle est cabossée de partout. C'est surprenant, mais elle roule. Et cette mère de famille, caissière dans un supermarché, ne peut pas attendre que quelqu'un vienne l'aider.
Il faut que je travaille, car il va falloir payer pour tout ça. Et la voiture, ça nous permet de charger nos téléphones. Ça va aller.
Comme beaucoup de survivants, Dawn a un principe. Si on n'a pas perdu de proches, il faut avancer. Et vite.
Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL à Mayfield dans le Kentucky. Selon un dernier bilan toujours provisoire, ces tornades ont fait au moins 88 morts.
À 10 jours de Noël, vous avez peut-être prévu de faire vos derniers achats sur Internet.
Eh bien attention Pascal, hein, malgré les appels à la prudence, nous sommes encore trop nombreux à nous faire pirater nos données bancaires. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes d'ailleurs font moins bien que leurs aînés.
Eh oui, la fameuse génération digital natives. Ceux qui sont nés avec Internet.
Ah, voilà. Alors là, ça, écoutez, vous me sidérez. Digital vous pouvez répéter natives. Ce que vous avez dit ?
Digital natives. Voilà,
bravo.
Né avec le digital. Et pourtant, ils n'ont aucune méfiance, ces digital natives, vis-à-vis des risques d'arnaque.
J'imagine l'Académie française en train de vous écouter, mais elle doit hurler, cher ami.
Oh, vous savez, la langue évolue. Hein. Mais en tout cas, ils n'ont pas de méfiance vis-à-vis de l'arnaque sur Internet ou sur le portable. Un quart des 18-24 ans reconnaissent d'ailleurs qu'ils ont révélé eux-mêmes des informations financières. Un quart des infos personnelles en répondant à un appel téléphonique ou en cliquant sur un lien SMS. Alors que leurs aînés, nous donc, ne sont que 9% à s'être fait piéger. Il faut dire que de nombreuses arnaques pour voler les données bancaires passent par les réseaux sociaux comme TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, sur lesquels se trouvent les plus jeunes. Le risque, c'est que cela passe par un univers beaucoup plus intime, un cercle de confiance en apparence. Et puis les jeunes sont aussi plus tentés par les placements à risque comme les crypto-monnaies, qui peuvent cacher parfois des escroqueries et où les acteurs institutionnels sont moins connus. 15% cette fois, des 18-24 ans ont investi dans ces placements qui étaient en fait des escroqueries, contre 6% pour le reste de la population.
Martial Liu, chef du service économie de RTL. Et donc, question ?
C'est pas une question, mais comment dire, il faut avoir une carte bancaire qui, lorsqu'elle est actionnée, on demande à son propriétaire de donner un accord avec une application.
Oui,
avec
non, là, ce qui se passe, en fait, c'est que vous recevez un SMS en disant, voilà, vous avez fait un achat ou une démarche, cliquez ici pour valider le code. Et là, on vous redemande, en fait, de mettre d'entrer vos références de carte bancaire, vos références de compte, et c'est à ce moment-là que vous êtes arnaqué, en fait.
Ah oui.
Et oui.
C'est bien. C'est pour ça qu'il faut bien regarder aussi l'origine des mails.
En gros, ne jamais cliquer sur un SMS ou ne jamais répondre à un appel qui vous demande vos coordonnées bancaires.
Ne jamais répondre à personne.
C'est plus simple. Une fois la commande passée, en tout cas, il faut qu'elle arrive, messieurs. Et à 10 jours du jour J, eh bien, c'est le rush chez les transporteurs, des milliers de cartons à livrer. C'est simple pour eux, c'est la plus grosse semaine de l'année, hein, Notouche.
Dans son camion, Asdine empile les colis et les ordonne pour préparer sa livraison. Lui est chauffeur depuis 20 ans. Et à l'approche de Noël, ses livraisons sont certes beaucoup plus importantes, mais l'atmosphère n'est pas la même.
Déjà, la décoration des immeubles, ça change. Nous, quand on rentre, on sait qu'on va livrer des cadeaux, on sait que c'est des choses importantes pour le client. Ah oui, ils nous rendent bien. Avec des sourires, des fois des petites intentions, des petites boîtes de chocolat. Ouais, pour moi, ça arrive.
Il va devoir livrer près de 70 colis avant 16h et Virginie Delestre, responsable du site DHL à Gennevilliers, gère un effectif de 120 personnes.
On est en train de battre de tous les records. On est à plus de 10% par rapport à l'année dernière à la même époque. C'est 50% de plus de colis qu'en temps normal.
Et la période de Noël est en fait préparée dès le mois de septembre.
À peine on revient de vacances l'été, on commence déjà nos premières réunions avec nos équipes, qu'on soit sûr d'être prêts pour cette période très très dense en termes d'activité chaque année.
Au total, plus de 30 000 colis passeront dans ce centre de tri aujourd'hui. Un rythme effréné qui continuera pendant toutes les fêtes de fin d'année.
Dans les coulisses de la tournée du Père Noël, reportage signé Arnaud Touche pour RTL.
Dans une seconde, la grève à la SNCF, les syndicats qui ont choisi le week-end prochain, c'est le premier week-end de départ en vacances. Vous êtes à la fois inquiet et peut-être en colère. A tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Noël sous Covid et Noël en grève. Plusieurs syndicats de cheminots ont déposé un préavis de vendredi à dimanche, autrement dit pour le premier week-end des vacances.
La date choisie ne doit rien au hasard. Grève prévue le week-end prochain, pile au début des vacances.
RTL vous l'annonçait dès hier, cet appel à la grève pour le premier week-end de départ en vacances. L'axe sud-est est principalement celui qui risque d'être touché. Appel lancé par plusieurs syndicats, Sudrail, CGT, FO et l'UNSA Ferroviaire. Bonjour Didier Matisse.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, justement. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. La date, bien sûr, n'a pas été choisie au hasard. Vous avez conscience, j'imagine, que ça va perturber les vacances de millions de Français.
Déjà, il faut savoir quand même que ce n'est pas un préavis national, mais ce sont des successions de préavis locaux par rapport à des problématiques spécifiques. Et pour autant, le 17 est encore loin, il y aura des négociations qui vont avoir lieu toute cette semaine et on espère une sortie positive de ces débats.
En fait, vous dites la balle est dans le camp de la direction de la SNCF, c'est ça. S'il y a grève, c'est de leur faute.
Exactement, donc les problèmes sont connus quand même depuis plusieurs semaines et les réponses faites en fonction des périmètres sont différents d'un axe TGV à un autre, mais pas que, parce qu'il y a également des conflits sur les intercités, sur les TER et sur toute la partie transilienne.
Vous réclamez une hausse des salaires, pour qui, monsieur Matisse ?
Alors, ce n'est pas vraiment une hausse des salaires, mais par rapport à l'effort consenti et par rapport à ce qui a été attribué sur d'autres axes, notamment l'axe Atlantique, les autres agents qui concourent donc à la production des trains, que ce soit des TGV, intercités ou TER, réclament l'obtention de la même prime. Sinon, il y a un sentiment d'inéquité qui traverse l'esprit des gens.
Mais ça veut dire que tous les agents de la SNCF n'ont pas reçu la même chose sur tout le territoire ? Il y a des différences selon les régions ?
Effectivement, mais c'est uniquement sur la partie de la société anonyme voyageur donc qui concourt à faire rouler les trains, qui sur certains périmètres et sur l'axe Atlantique notamment, a octroyé des primes qui n'ont pas été généralisées à l'ensemble des agents qui font le même métier.
La société anonyme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est mieux d'être privatisé, c'est ce que vous me dites, ou d'avoir un secteur privatisé que d'être public, c'est-à-dire qu'on gagne mieux sa vie.
Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai juste dit que depuis la mise en place des 5 sociétés anonymes à la suite de la réforme de 2018, chaque société anonyme a pris une certaine indépendance, notamment dans l'attribution de primes.
C'est entendu, mais c'est peut-être compliqué. C'est compliqué peut-être pour la SNCF, du coup, de mettre tout le monde sous les mêmes barèmes ou avec les mêmes salaires, puisqu'il y a 5 sociétés différentes.
Oui, mais là, le problème se pose uniquement sur la même société anonyme. C'est la société anonyme SNCF Voyageurs. Là, on ne parle pas des autres.
Bon, pour revenir aux voyageurs, justement, vous dites, bon, maintenant, c'est à la direction de la SNCF de faire quelque chose, d'entendre nos revendications, et ça fait des semaines et des semaines qu'on discute et il ne se passe rien. N'empêche qu'il y a des gens qui devaient partir en vacances, qui devaient retrouver leurs proches et qui, peut-être, ne pourront pas le faire le week-end prochain.
Oui, mais pour l'instant, ça reste au conditionnel, étant donné que toutes les négociations ne sont pas abouties, et j'ai bon espoir que cela aboutisse avant le 17.
Non, c'est une manière quand même de faire pression, et alors même si l'expression, il ne faut jamais l'utiliser, de prendre en otage, parce qu'on sait que cette expression, elle n'est pas forcément adaptée à des voyageurs, mais ils ont ce sentiment, en tout cas, d'être prisonniers de votre bon vouloir et d'un mouvement de grève lancé précisément le 17 jour de départ en vacances.
Oui, certainement, le ressenti est important dans ce type de situation. Pour autant, rien n'est perdu et on va laisser la place aux négociations jusqu'au vendredi 17.
Et pourquoi vous ne le faites pas au 3 janvier ? Pourquoi vous ne lancez pas un préavis de grève le 3 janvier ? Ce serait plus simple.
Il y en a eu précédemment, mais vous ne l'avez pas médiatisé. Et d'ailleurs,
c'était quand
vous le médiatisez, il y a eu des préavis de grève au cours de ces dernières semaines.
Mais quand ?
Alors, il y a eu sur les périmètres, les dates sont différentes en fonction des établissements. Donc, j'ai pas la liste exhaustive, étant donné, comme je vous l'ai dit en préambule, que ce n'est pas un préavis national. Donc, ce sont bien des préavis locaux où chaque établissement avait des dates différentes. Mais il y a eu des préavis récemment sur notamment les axes TGV qui n'ont pas été médiatisés.
Et notamment au moment de la Toussaint, il y avait également un préavis de grève, mais c'était plus sur le secteur atlantique. Merci Monsieur Matisse. Merci, vous êtes secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Et merci de vos précisions. Et nous allons parler dans un instant des recommandations du Conseil scientifique pour le réveillon de Noël.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Il faut oublier probablement les vacances de Noël. Peut-être que cette année, le Père Noël, ça sera Skype.
On peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine et nous, on mange dans la salle à manger. Terrible.
Ça, c'était l'an dernier. À la même époque, médecins et pouvoirs publics appelaient les Français à la plus grande prudence pour les fêtes. 12 mois plus tard, nouvelle recommandation du Conseil scientifique, la vaccination est passée par là. Malgré tout, pas question de baisser la garde. Alors, que faut-il faire ? Quelles précautions prendre ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour, professeur Lina.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, virologue et membre du Conseil scientifique. On va essayer d'être très très concret pour les auditeurs d'RTL. Vous dites, il faut limiter le nombre de participants pour ces repas de fête. Combien de personnes ? 6 personnes, comme l'an dernier, pas plus ?
Alors, il n'y a pas de chiffre magique. Il ne se passe rien de particulier entre 6 et 7 personnes. En fait, l'idée, c'est beaucoup plus de mettre dans l'esprit des gens une capacité d'imaginer un risque. Il est clair que quand vous avez 20 personnes autour de la table et dans une petite pièce, le risque de transmission d'un virus, si jamais une personne est infectée, est beaucoup plus important que si vous n'en avez que 4. Et donc, ce qu'il faut, en l'occurrence, c'est s'adapter de façon à ce que le regroupement familial qui est important, un Noël qui doit se faire, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Autre chose qu'il est possible de faire et qui est évoquée aussi dans notre avis, c'est d'utiliser des tests, des autotests.
Alors justement, on fait ça quand, professeur ? La veille ?
Alors, si vous avez un autotest, c'est-à-dire que vous êtes en autonomie, vous pouvez le faire au moment où vous décidez de participer, c'est-à-dire quelques heures avant. Plus il est fait proche de l'événement, plus il est informatif.
Alors, l'autotest, moi ça m'intéresse parce que par exemple, je le fais régulièrement. Il est fiable ? Est-ce qu'il est fiable à 100% ?
aucun test n'est fiable à 100%. Ce qu'il y a, c'est que à force de le faire, vous le faites de mieux en mieux. Et si vous suivez les consignes qui sont données dans les notices, en général, elles sont assez explicites, vous avez un résultat qui est effectivement fiable.
Professeur Lina, dans ce dernier avis, le Conseil scientifique évoque aussi la vaccination des enfants, les 5-11 ans. Vous demandez à ce qu'elle ne soit pas obligatoire, ni soumise au pass sanitaire. En revanche, vous vous interrogez quant au retour à l'école au mois de janvier, avec notamment sans doute l'apparition d'Omicron. Il va falloir changer les règles, d'après vous ?
Comme ça a été dit, cette vaccination elle ne doit pas devenir obligatoire. Aucune vaccination n'est obligatoire. On ne souhaite pas non plus qu'elle rentre dans le pass sanitaire, qui est un pass sanitaire enfant. Mais malgré tout, il faut qu'on en prenne la mesure que cette vaccination dans ce groupe d'âge aura un intérêt à la fois individuel pour l'enfant et collectif pour tout le monde, puisque ça va freiner, même si ça ne l'empêche pas complètement, ça freinera la circulation du virus. Dans ce contexte-là, la reprise de l'école à la rentrée scolaire, pour moi aujourd'hui, elle n'est pas du tout conditionnée à la vaccination.
Non, mais est-ce qu'il va falloir faire du dépistage au retour des vacances?
Ah oui, par contre, c'est exactement
ça. C'est ce que vous conseillez.
On a des outils et un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites par l'éducation nationale qui montrent que ce système de dépistage chez les enfants, c'est un petit peu comme les autotests pour le repas familial à Noël. Hein. C'est-à-dire de trouver chez les enfants qui sont asymptomatiques mais contagieux, de façon à sécuriser l'espace scolaire, et par le biais de ces dépistages, on peut maîtriser la circulation du virus dans les écoles du mieux possible.
Mais il faudrait que ce soit obligatoire le 2 janvier ou 3 janvier quand les enfants vont reprendre l'école ?
Alors, c'est toujours pareil.
Oui.
On n'est pas entre des obligations absolues. Ce qu'il faut, c'est qu'on explique à quoi ça sert, de façon à ce qu'il y ait une adhésion à ces dépistages. Et je peux vous dire que dans Auvergne-Rhône-Alpes, on fait une expérimentation actuellement, eh bien, l'adhésion est excellente. On n'a pas 100% des enfants, mais on a pratiquement 75% des enfants qui font ces autotests. Et c'est suffisant pour avoir une bonne idée du niveau de la circulation et surtout pour freiner cette circulation dans les écoles.
Juste une toute dernière question et en un mot, le porte-parole du gouvernement ce matin, Gabriel Attal, parle de 133 cas de variant Omicron. Est-ce que c'est pas un peu sous-évalué quand on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne ? Est-ce que c'est parce que nous, on a toujours du mal avec le séquençage ?
Alors non, on n'a pas de mal avec le séquençage, puisqu'aujourd'hui, on a un niveau de séquençage qui est aux alentours de 15 000 séquences par semaine, ce qui permet d'avoir quand même une vision assez propre de ce qui se passe. Être certain qu'il n'y en a pas 138 ou 152, ça, personne n'est capable de répondre à la question, et dans aucun pays on est capable de le faire. Il est clair que l'arrivée d'Omicron s'est fait beaucoup plus tôt en Grande-Bretagne que chez nous, et ceci est confirmé par les enquêtes flash qui ont été faites en rétrospective. Il n'y avait pas de virus détecté par criblage PCR qui était vu avant le 23 ou le 24 septembre en France, hein, alors qu'il y en avait déjà en Grande-Bretagne de façon assez significative. Alors oui, il y a plus d'Omicron que 130, bien évidemment. Ce qu'il faut aujourd'hui bien comprendre, et c'est un enjeu extrêmement important vis-à-vis de ce virus donne des très gros clusters. Il est capable, et c'est ce qu'on a vu en Norvège et au Danemark, de faire des épisodes de super-infection de 120 à 150 personnes à partir d'une seule personne infectée.
D'où la limitation des rassemblements.
Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on évite à tout prix. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prudent sur ce virus, parce qu'il a cette capacité de super-transmission que n'avaient pas les autres. On n'a pas identifié de cluster comme ça a été vu dans d'autres pays, et ça, c'est important. Et c'est là où la vigilance doit être importante aussi.
Merci beaucoup, professeur Lina, d'avoir été avec nous sur RTL.
Merci à vous.
Merci à lui, effectivement. Il est 12h58. On va marquer une pause. Et dans une seconde, ce sera le rappel des titres et des auditeurs jusqu'à 14h30. À tout de suite.
RTL Midi.